Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag, Emmanuel Duteil.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes ravis de vous présenter cette émission depuis l'usine Renault en direct. Nous sommes en direct de Cléon en Normandie pendant une heure. On va vous parler de la voiture de demain, des innovations en matière de voitures françaises. Ensemble, on en parle avec vous, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Elisabeth Assayag, bonjour à toutes et à tous. Invité exceptionnel de cette France Bouge, Jean-Dominique Senard, c'est le PDG de l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi. Renault qui vient de lancer sa Renaultution. Le groupe promet de nouveaux modèles toujours plus électriques. On va parler de tout cela jusqu'à 14h.
À la une, donc, la voiture électrique qui sera la voiture la plus utilisée d'ici 20 ans. Ainsi, pour ne pas saturer le réseau électrique, une start-up a déjà trouvé la borne de recharge intelligente. C'est Covoltis et son fondateur nous dira comment ça marche, enfin comment ça roule d'ici quelques minutes.
Et chaque jour dans La France Bouge, nous écoutons le projet d'un entrepreneur ou d'une entrepreneur qui se lance. Le pitch du jour au Voom, trouver le garage le plus proche de chez soi selon son besoin. Les détails de ce projet, 13h45.
Et puis demain, un emploi. La France Bouge soutient et accompagne les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Aujourd'hui, 1000 postes à pourvoir pour tout profil et partout en France. Restez avec nous, vous saurez tout vers 13h50. C'est ça, la France bouge et c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 14h.
La France bouge sur Europe 1.
Et oui, la France bouge donc en direct de cette usine Renault de Cléon. Pour vous donner une image, si vous ne suivez pas encore sur europe1.fr, ça ressemble à tout sauf aux usines automobiles comme on pourrait l'imaginer. Ici sont fabriqués les moteurs électriques. Il reste un moteur thermique encore à Cléon, mais ce sont des moteurs électriques et je peux vous dire qu'il y a des robots partout autour de nous et très peu de bruit. Vous entendez, je pense quand même
nous
un petit peu derrière nous.
Nous sommes au cœur de
l'usine. Hein. Et voilà, on est en plein milieu de l'atelier F, l'un des plus grands ateliers de cette usine de Cléon. Et on parle de tout cela et de l'avenir de Renault avec notre témoin exceptionnel jusqu'à 14h.
Bonjour Jean-Dominique Senard.
Bonjour.
Merci de nous accueillir. Vous êtes le PDG de l'alliance Renault, Nissan, Mitsubishi, troisième constructeur mondial. Près de 180 000 salariés rien que chez Renault. Ici, à Cléon, 5000 salariés sur le site. Si vous voulez bien, Jean-Dominique Senard, on va commencer par Renault. On va bientôt sortir de ce troisième confinement. Comment se portent les ventes?
D'abord, merci infiniment d'être venu ici. Je crois que nous sommes tous très fiers chez Renault de vous accueillir. C'est bien que vous soyez au cœur de notre industrie. D'ailleurs, vous êtes à l'endroit idéal pour illustrer ce que va être l'évolution de Renault, de l'évolution de la mobilité et de l'automobile en particulier. Donc je crois que nous sommes là au cœur de cet atelier où on va fabriquer des moteurs électriques pour véhicules hybrides. Exactement, vous l'avez dit vous-même, dans un monde qui était inattendu, très automatisé bien sûr, mais extraordinairement moderne et à la pointe du progrès pour une technologie qui est probablement une des meilleures du monde. Donc voilà comment nous sommes aujourd'hui. Renault va mieux, Renault est en train de rebondir. On l'avait pressenti déjà à la fin de l'année dernière, l'arrivée de Luca De Meo, notre directeur général, avec une équipe extraordinairement charpentée, qui était là avant et qui a été complétée, est en train de faire des formidables progrès. Et cette entreprise est en train de retrouver son rang. Vous verrez, c'est une question de temps, ce n'est plus une question de fond.
Alors justement, on va regarder dans un instant comment vous allez retrouver votre rang. Il y a un petit problème conjoncturel en ce moment, ce sont les composants électriques. Ça peut paraître absurde, mais il n'y en a pas assez en ce moment dans le monde. De façon très concrète, vous aviez dit que vous allez perdre peut-être 100 000 voitures cette année à cause de cela. Quand est-ce que cette pénurie va se régler?
Je pense qu'on a une forte chance de voir un deuxième semestre plus normal. C'est un peu trop tôt pour le dire, mais tel que l'on perçoit les nouvelles capacités qui sont en train de se mettre en place dans le monde, le rattrapage devrait normalement se faire. Les indications que je vois aujourd'hui, je le vois pour Nissan au Japon, pour Mitsubishi également, convergent vers cette date du deuxième semestre. Normalement, sincèrement, on devrait pouvoir rattraper une partie du retard du premier semestre au second.
Mais on voit une hausse très forte de toutes les matières premières. Là, on le voit dans La France Bouge, très souvent, là encore hier avec Akena, on voit qu'il y a une forte hausse des matières premières. Va-t-il falloir, Jean-Dominique Senard, augmenter, du coup, les prix des voitures?
Je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. L'aspect inflationniste de tout ce que vous dites est réel et on le vit partout. Les fournisseurs le ressentent déjà et nous, bien entendu, en bout de chaîne, on va le ressentir. Il est évident que nos entreprises vont être obligées de faire ce qu'il faut pour survivre et donc forcément passer une partie de ces hausses de prix vers le public.
Alors attendez, pour qu'on comprenne bien en bon français, faire ce qu'il faut et passer une partie des hausses de prix, ça veut dire que vous pouvez nous dire là, sur Europe 1, que le prix des Renault vont augmenter en France d'ici quelques semaines.
En tendance, il faut s'y attendre. Ça serait, vous dire le contraire serait vous dire simplement un mensonge. La réalité, c'est que la tendance inflationniste que nous connaissons là est massive, et on l'a rarement vue depuis bien des années. Et forcément, ceci aura des conséquences inflationnistes.
On peut avoir une idée de la proportion?
Non, je ne saurais. Alors honnêtement, enfin, vous le dire, et c'est très sincère, parce qu'aucune décision n'est prise aujourd'hui. Mais vous me posez la question, je vous réponds aussi sincèrement que possible.
Alors Jean-Dominique Senard, Renault se prépare à changer complètement sa gamme. 24 nouveaux modèles sont annoncés d'ici à 2025. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, la gamme Renault est dépassée?
La gamme Renault a un certain âge. Les modèles qui sortent aujourd'hui sont, à mon avis, exactement ce que nous souhaitions pour la gamme existante. Le modèle Captur, qui est vraiment un magnifique véhicule. Franchement, le modèle Arkana qui arrive en ce moment, un grand succès de commande. On est heureux avec ce qui arrive ici, mais ce qui arrive devant nous est beaucoup plus fort. À l'arrivée de la Mégane e-Vision, dont le moteur, d'ailleurs, sera fabriqué ici, et elle sera fabriquée à Douai, pas très loin d'ici. L'arrivée également des nouveaux modèles que l'on a prévus dans l'année 2022-23, la R5 dont Luca De Meo a parlé, tout le nouveau programme que notre directeur général a mis en place récemment, vous allez voir arriver une nouvelle gamme de Renault dans les 2 ans qui viennent, qui sera très impressionnante.
Alors justement, nouvelle gamme, vous venez de citer vous-même la R5, elle sera électrique. Il y a la 4L, nouvelle génération, qui se prépare aussi. Oui. Chez Renault, la révolution, c'est faire du neuf avec de l'ancien?
Ah bah écoutez, on verra bien ce que ça veut dire, mais je crois que les premiers retours que nous avons du grand public sur les projets que Luca a présentés sont extraordinairement positifs. Il y a une immense attente, pour tout vous dire. Pas simplement de la curiosité, mais une vraie attente.
Dans la R5, par exemple, vous la mesurez comment, cette attente? C'est pour quand déjà qu'elle arrive?
Écoutez, elle arrivera en principe en 2022-2023, je crois que c'est plutôt 2023. On est tous impatients à ce qu'elle arrive. Vous savez, dans l'automobile, on ne peut pas aller trop vite non plus. Il faut faire très attention. C'est assez complexe et il y a des éléments de qualité qu'il ne faut pas négliger. Mais le temps passe vite, elle va arriver et je lui promets un succès absolument fabuleux.
Donc la R5, la 4L, c'est une façon de renouer avec une histoire familiale.
Mais vous savez, Renault, c'est un bout de France. Il faut se rendre compte que la tradition et la passion de l'automobile dans cette entreprise est incroyablement forte. Je ne suis pas surpris, vous savez, c'est quelque chose qui m'a vivement impressionné quand j'ai rejoint le groupe. Et au fond, ce passé extraordinaire ne demande qu'à revivre. Alors, on va utiliser les mêmes noms de voitures parce que dans l'inconscient collectif, il y a un côté extrêmement positif. Inutile de vous dire que les voitures ne seront pas les mêmes. La technologie sera radicalement différente et, à mon avis, parmi les meilleures du monde.
Et donc, une R5, une 4L vont faire leur retour avec des hausses de prix. C'est ce que vous nous annoncez, Jean-Dominique Senard. Vous êtes le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Et nous, on reste en tout cas avec vous au sein de cette usine Cléon en Normandie.
Europe 1.
Et il est 13h18 depuis Cléon, ici en Normandie.
Une borne intelligente pour recharger sa voiture selon ses besoins. L'objectif de tout ça, c'est de ne pas saturer le réseau électrique.
Oui, ça s'appelle Covoltis et on va découvrir tout cela dans un instant. Une France bouge exceptionnelle aujourd'hui, en direct depuis l'usine Renault de Cléon. C'est dans cette usine que sont fabriqués la plupart des moteurs électriques de l'entreprise, notamment les moteurs de la fameuse Zoé. Alors si vous entendez un bruit un peu particulier, c'est qu'imaginez qu'on est en plein milieu du bâtiment F, l'un des plus grands bâtiments de cette usine de Cléon. 5000 salariés ici et on vous fait vivre donc le nouveau Renault par notamment cette révolution électrique.
Et même si aujourd'hui, c'est encore simple de charger son véhicule électrique à tout instant, viendra le moment où il y aura de plus en plus de voitures électriques. En tout cas, c'est ce que l'on espère. Et donc, on aura besoin de plus en plus d'électricité. Et là, ça pourrait saturer, faire sauter le réseau. Certains planchent déjà sur cette question et ont trouvé peut-être la solution. Bonjour Essane et Mamie. Vous êtes le fondateur de Covoltis. Covoltis, ça existe depuis 2019. Et votre objectif, c'est de ne pas faire trop pression sur ce réseau. Je le disais, vous avez déjà la solution face à ce défi qui est immense. Vous avez mis au point une borne de recharge intelligente pour réguler le réseau en régulant la puissance. C'est quoi cette borne intelligente?
Alors en fait, globalement, les bornes de recharge telles qu'on les connaît, ça amène de l'électricité dans la voiture. Mais la question qu'il faut se poser, c'est comment faire en sorte qu'on puisse charger plus de véhicules sans, comme vous disiez, mettre de la pression sur le réseau. Ce qu'on a imaginé, c'est une solution à plusieurs étapes. Au niveau de la maison individuelle, on a créé un module qu'on installe dans le tableau électrique, sans coupure, avec aucun fil, qui vient simplement mesurer la puissance instantanée consommée par la maison, qui mesure la différence avec votre souscription d'électricité et qui envoie cette valeur comme étant une différence à la borne de recharge via le câble électrique.
Donc ça signifie que si la bouilloire fonctionne, le four fonctionne et que je veux charger ma voiture, grâce à votre borne, rien ne va disjoncter.
Exactement. Et quand vous aurez fini de faire votre thé, là, la puissance du véhicule va automatiquement augmenter et vous aurez plus de puissance.
Alors ça, c'est pour la maison, mais ça s'adapte à plein d'autres situations, puisque demain, on peut imaginer que tous les parkings, par exemple, souterrains, vont servir à recharger les voitures dans les centres urbains. On ne peut pas tous recharger sa voiture en bas de la maison.
Exactement. Et ce qu'on imagine, c'est un modèle où dans les parkings, on aura un compteur dédié aux bornes de recharge. Ensuite, vous aurez chaque utilisateur en arrivant sur son application exprime son besoin sous forme de deux éléments. L'heure de départ et la quantité d'énergie en kilowattheure. Une fois que ces deux éléments sont exprimés, on a développé un algorithme qui utilise des techniques d'intelligence artificielle qui attribue une puissance différente à chaque véhicule avec un programme de charge automatique et dynamique. Donc si un véhicule arrive ou un véhicule s'en va, on adapte automatiquement la puissance pour la durée de la charge restante, de sorte que tout le monde soit satisfait.
Donc vous partez du principe que l'on n'a pas tous les mêmes besoins au même moment avec notre voiture électrique. Et donc là, vous faites intervenir, si j'ai bien compris, un algorithme. Vous envoyez des programmes de charge aux différentes bornes.
C'est ça. Et donc, c'est un programme qui, comme je vous disais, est dynamique. Ça veut dire qu'on peut avoir un changement. Vous pouvez décider de partir plus tôt que prévu. L'algorithme réattribue la puissance. Quelqu'un arrive, il n'était pas prévu. Pour ça, vous ne savez pas qui arrive. Idem, on réattribue la puissance. Et un autre élément, on intègre dans le même algorithme le coût d'achat de l'électricité. Donc, l'algorithme va automatiquement déplacer le maximum de puissance là où l'électricité est le moins chère. Et en matière de réseau électrique, qui dit moins cher, ça veut dire abondance. Et quand on parle d'abondance, ça veut dire qu'on contribue à faire diminuer la pollution.
Alors nous, ce qui nous a beaucoup plu aussi en préparant cette émission avec Emmanuel, c'est que vous avez aussi comme autre innovation, c'est que vous partez du principe, et vous avez raison, que les voitures ne roulent pas tout le temps, 90% de leur temps, elles sont garées. Et donc, vous voulez faire en sorte que la batterie qui est en train de charger, bah, finalement, donne son énergie.
C'est ça.
On puisse la récupérer, cette énergie.
Tout à fait. Imaginez que vous êtes dans une situation où, dans la journée, vous garez votre voiture dans un parking, par exemple, à votre bureau, et que, comme ici, par exemple, vous avez des panneaux solaires qui chargent le véhicule, mais les panneaux peuvent être ailleurs. Globalement, l'idée est que, quand c'est possible, c'est de l'énergie renouvelable qui charge les batteries des véhicules. Vous rentrez chez vous le soir, il fait sombre, au lieu que ça soit une heure de pointe, qu'il y ait une forte consommation que vous appelez au niveau du réseau, c'est votre véhicule qui envoie une part faible de sa puissance, de son énergie, à peu près 10% de la batterie, qui peut vous permettre de passer ce fameux pic d'heure de pointe de soir. Et là, une fois que l'heure de pointe est passée, vous rechargez votre véhicule le soir ou le lendemain. Mais l'idée est justement qu'en diminuant cet appel de puissance pendant les heures de pointe, vous allez diminuer fortement l'appel à de l'énergie fossile.
Jean-Dominique Senard, je rappelle que vous êtes le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, patron de Renault. Le défi de la recharge pour la voiture électrique, c'est enfin lever la clé pour réussir à lever ce verrou.
Mais vous avez parfaitement raison et je me réjouis profondément de ce que je viens d'entendre parce que là, nous sommes en plein dans la révolution technologique qui va permettre en effet l'émergence complète de l'électrification des véhicules. Si vous voulez, on sent très bien aujourd'hui que ça risque d'être une borne, j'allais dire, à l'avancement. On le sent dans la vie quotidienne. Enfin, moi-même, avec le capture dans Paris, etc., je cherche des bornes, elles ne marchent pas toutes forcément bien, enfin, etc. Et vous voyez bien qu'on sent qu'il y a une attente et que si on n'y répond pas, eh bien, à ce moment-là, ça peut décourager le client. Je pense que les programmes européens et français en la matière sont puissants. Ils sont conscients, en tous les cas, du nécessaire. Et j'appelle vraiment de mes voeux un effort particulier sur les deux prochaines années parce que nous ne pouvons plus freiner maintenant ce qui est la tendance, et vous le voyez ici aujourd'hui, nous ne pouvons pas freiner nos usines parce qu'il manquerait des bornes de recharge. Donc là, et la technologie que vous montrez, vraiment c'est extraordinaire, c'est fait le lien avec les batteries, avec ce que les batteries peuvent faire. Et Renault va être au cœur de cette évolution sur les batteries, de permettre en effet non seulement leur recyclage mais leur utilisation pour charger les maisons, charger les véhicules. On est au cœur d'une révolution technologique.
Les recycler, c'est indispensable. Faire en sorte qu'on puisse les recharger plus facilement, ça l'est aussi. Ce qui est aussi totalement indispensable, c'est qu'on puisse faire plus de kilomètres. Aujourd'hui, avec la Zoé, si on roule sur l'autoroute pour venir ici à Cléon, On est quasiment au bout de la route par rapport à Paris. J'exagère, on peut encore faire 50
km. Avec l'ancien modèle de la Zoé, mais je crois pas le récent.
Vous exagérez un peu.
Un peu.
Mais c'est le frein quand même aujourd'hui aussi. Les futurs modèles électriques.
390 km, vous pouvez faire avec la Zoé, ça, je pense que là, je suis certain. Mais en effet, l'évolution vers des batteries extrêmement puissantes et de nouvelle génération, en particulier les batteries solides, etc., dans l'avenir, qui n'existent pas encore réelles, seront une des clés majeures. Et tout le monde y travaille, et je pense que dans les années qui viennent, des milliards d'euros vont être investis dans ces recherches pour arriver à le faire. En attendant, vous avez des possibilités, notamment le véhicule hybride, et c'est bien l'objet de...
Vous êtes arrivé en retard, Renault, sur cette technologie de l'hybride, mais vous nous dites, et les spécialistes en tout cas le disent, alors pour une fois on peut le dire même à votre place, que semble-t-il, il n'est pas trop mauvais.
Oui, parce que bon, je dis, il faut toujours être modeste dans ce genre de choses et humble, mais les spécialistes qui m'entourent aujourd'hui, qui entourent l'équipe de Luca, nous le disent très clairement, Luca lui-même le dit.
Luca Di Meo, le patron de Renault.
Luca Di Meo, le patron opérationnel de Renault, nous dit, nous avons probablement une perle technologique ici, et vous êtes au cœur ici de la fabrication.
C'est pour ça que là, nos auditeurs se disent peut-être, tiens, il y a un bruit bizarre aujourd'hui, mais le bruit bizarre, c'est le bruit des usines.
Oui. Hier, on voit les chaînes d'assemblement, on voit les robots, on voit tout. Et Sam et Mamik, fondateur de Covoltis, quel est le coût de l'installation de votre borne aujourd'hui pour les particuliers, mais aussi pour les parkings, imaginons, pour les parkings collectifs?
Alors, une borne en soi, chez Covoltis, coûte en TTC 1 200 € pour la petite version qui est murale et 1 400 € pour la version qu'on appelle totem qui se fixe au sol. À cela, il faut ajouter le coût d'installation qui, dans une maison individuelle, peut tourner aux alentours de 500 €. 500 € quand vous avez quelques mètres de câble à tirer, que l'installation est facile. Autrement, dans un parking collectif, on peut avoir des coûts jusqu'à 1 000 à 1 500 € en fonction de la difficulté.
Qui sont vos clients aujourd'hui ?
Des foncières de bureaux, des copropriétés, des maisons individuelles. Donc, globalement, l'ensemble du secteur.
Et Essan et Mamie, merci. Vous êtes le fondateur de Covoltis. Merci d'être venu aujourd'hui dans La France Bouge.
Et Jean-Dominique Senard, le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. On vous garde encore avec nous. Hein. Vous êtes chez vous, mais on s'incruste un peu. On reste avec vous jusqu'à 14h ici.
Europe 1.
13h29 sur Europe 1. Oui, vous restez avec nous. Nous sommes en direct de cette usine Renault à Cléon, en Seine-Maritime. C'est l'usine qui fabrique les batteries des voitures électriques.
Oui, et on va poursuivre dans un instant. Et on va voir justement à quoi vraiment va ressembler ce futur Renault demain. La France bouge donc en direct de cette usine de Cléon, cette usine Renault qui fabrique notamment les moteurs électriques, avec notre invité exceptionnel Jean-Dominique Senard, qui est le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Alors, on le disait, Renault qui est en train de se préparer avec un très grand plan produit, mais il y a un plan en 3 étapes. D'abord, on commence par remettre l'entreprise un peu à niveau. On cherche toutes les marges d'économie. Et parmi ces marges d'économie, il y a la fermeture d'usines, notamment les fonderies de Bretagne. Hier, des collaborateurs ont manifesté pour ne pas qu'un conseil économique et social se tienne, puisqu'ils ne veulent pas que vous cédiez votre usine. Comment vous pouvez les rassurer sur leur avenir, Jean-Dominique Senard ?
Je crois que nous faisons un travail considérable avec les équipes aujourd'hui pour rassurer tout le monde. L'évolution des fonderies de Bretagne est connue depuis pas mal de temps. Nous savons très bien que son activité est vouée à se réduire considérablement dans l'avenir, ne serait-ce que parce que ce que vous voyez aujourd'hui dans cette usine, c'est-à-dire l'évolution des moteurs thermiques qui vont vers les moteurs électriques. C'est une, j'allais dire, presque une fatalité.
C'est-à-dire que l'électrique va détruire de l'emploi.
Mais elle va détruire, le mot est toujours un petit peu péjoratif.
Il va évoluer l'emploi.
Transformation des emplois. Et franchement, j'insiste là-dessus parce que ici même, nous avons une usine qui fabriquait essentiellement des moteurs thermiques pendant des années et qui aujourd'hui est en train de se convertir. Aujourd'hui, nous sommes à 50% électrique, 50% thermique. Et ce qui se passe, c'est que nous anticipons cette transformation par la formation des personnes qui travaillent. C'est fondamental. Le devoir des chefs d'entreprise dans ce domaine-là, c'est d'anticiper. Évidemment qu'il y a une évolution. Comment voulez-vous l'empêcher ? D'ailleurs, c'est le progrès technologique. Le progrès technique, on ne va quand même pas aller contre le vent. Mais anticiper, c'est le devoir principal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous formons les personnes. Nous les formons à un nouveau métier. Et c'est vrai que c'est très différent. Des heures et des heures de formation réparties pour tout le monde, pour qu'il n'y ait pas de choc. Et pour ceux qui auraient difficulté pour faire la transition, nous insistons en insistant sur les horaires de formation pendant les semaines et les mois. Croyez-moi, il n'y a pas de recette miracle. La recette principale, c'est la formation. Les grands programmes européens, les grands programmes gouvernementaux et tout doivent nous aider, nous, entreprises, à faire ces formations de transition. C'est ce que nous aurions dû faire aux fonderies de Bretagne depuis des années. Mais malheureusement, peut-être collectivement, nous avons fait cette erreur. Aujourd'hui, il faut la corriger, former les gens et les accompagner. Alors, je l'ai dit, Luca Di Meo le dit aussi, cette fonderie n'a pas vocation à rester dans le groupe Renault. En revanche, nous allons accompagner cette transition. C'est un engagement que nous avons pris. Et quand les engagements de Renault sont les engagements de Renault, en général, ils sont tenus.
Voilà. Donc, de la formation, accompagner ce changement. À un moment, l'usine de Flins était sur la sellette, mais vous avez décidé de la transformer en une usine qui va faire des voitures reconditionnées au moment où le marché de l'occasion s'envole, on peut le dire. Oui. C'est ça aussi, vous misez aussi là-dessus sur l'avenir de Renault.
C'est une très bonne nouvelle, si vous voulez. Je sais qu'il y a quelques années, même quand j'avais rejoint le groupe Renault, tout le monde disait l'usine de Flins n'a pas d'avenir. C'était très choquant à entendre. Eh bien, je crois que nous avons trouvé la solution, j'en suis même certain. Le projet est déjà parti. Je pense que l'usine de Flins sera, dans les années à venir, la première grande usine européenne en matière d'économie circulaire. Et vous savez ce que c'est l'économie circulaire ? Ça veut dire de refaire du neuf avec de l'ancien.
Mais soyons concrets, on emmène notre vieille Zoé, qui aurait quelques années.
Oui.
Vous allez en faire quoi ? Vous allez la remettre à neuf ?
L'objectif, c'est d'avoir des Zoé qui feront 1 million de kilomètres. Et quand on dit ça, ce n'est pas simplement une image pour faire plaisir, c'est la réalité. Ça veut dire que la Zoé va arriver, nous allons la remettre en état, nous allons éventuellement récupérer des pièces qui auront été usagées, les travailler et les retravailler pour les remettre à neuf et les réintégrer dans le véhicule afin que vous ayez ensuite un véhicule d'occasion, mais qui sera comme neuf. Il sortira de Flins 140 000 véhicules de cette nature. Croyez-moi, c'est assez impressionnant. Et puis il y aura tout le reste, évidemment.
Alors, est-ce que si on poursuit dans ce raisonnement-là, ça signifie que vous ne croyez plus tellement dans les voitures neuves qui sortent directement de l'usine ?
Si, il y aura des voitures neuves, bien entendu, que chacun se rassure. Et d'ailleurs, ce qui va se passer dans ce pays, en particulier entre Cléon, Douai, Maubeuge, Dieppe, c'est exactement cela, c'est-à-dire des véhicules neufs qui vont sortir, mais la clé, c'est qu'il faut qu'ils soient abordables. Voyez-vous, tout à l'heure, vous me disiez, il y aura une petite augmentation des prix. Oui. Mais nous ferons tout pour la réduire, cette augmentation. Évidemment, il faut absolument arriver à produire des véhicules abordables. La fameuse R5 dont vous me parlez tout à l'heure, elle sera abordable. Et si nous réussissons ce pari, vous allez voir que nous aurons enfin réussi à rendre l'électrique abordable, parce qu'aujourd'hui, c'est un véhicule cher.
Oui, parce que vous avez fixé ce seuil à 20 000 euros sans aide. Vous dites, on doit réussir.
On doit réussir.
Là, c'est pour quand ?
Eh bien, c'est pour 2024-2025. Il faut réussir notre pari. Vous savez, ça tient aussi au fait que nous devrions avoir dans l'usine une usine de fabrication de batteries, parce que la proximité de cette usine permettra d'en réduire les coûts. Et au passage, les coûts des batteries, qui sont aujourd'hui élevés, vont se réduire assez massivement dans les années qui viennent. Nous ne pouvons pas nous permettre de rater cette étape. Et le jour venu, à un niveau qui convient, eh bien nous serons capables de sortir des R5 de la meilleure technologie à 20 000 euros, voire peut-être moins, j'espère. Voilà le vrai pari. Tout le reste, c'est un effort interne pour essayer de compenser toutes nos contraintes extérieures, qui en ce moment, vous l'avez souligné tout à l'heure, sont fortes, pour éviter que le client soit pénalisé. Mais c'est ça l'objectif.
Mais d'ailleurs, pour y arriver, vous allez, pour la fameuse R5, vous allez créer dans le Nord, à Douai, un pôle pour la voiture électrique avec une usine de batterie et toute la technologie qui va avec. Tout va se faire dans le Nord ?
Une grande partie de nos véhicules électriques vont se faire dans le Nord. Nous avons décidé d'en faire un écosystème, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un ensemble d'usines cohérents. Cléon, de mon point de vue, Cléon est en Normandie, alors ne fâchons personne, mais c'est un ensemble.
On est dans le nord de la France, on va dire.
Mais le technocentre qui est dans la région parisienne, Cléon et les deux grandes usines de Renault, Douai et Maubeuge, seront, à mon avis, d'ici 2-3 ans, probablement le centre le plus important en Europe de fabrication de véhicules électriques.
Est-ce que vous serez capable de concurrencer les voitures chinoises ? Vous avez à un moment dirigé Michelin et vous avez vu l'arrivée des pneus chinois qui a complètement chamboulé votre marché et ça fait que Michelin ne pouvait plus vendre des pneus entrée de gamme parce que vous n'étiez pas assez compétitif. Est-ce que la voiture électrique, c'est pas la même chose ? Est-ce que finalement, là, tout ce qu'on voit là, c'est pas voué à l'échec ?
Écoutez, non, je crois pas parce qu'au moins, je peux vous dire une chose, c'est que je ferai partie des gens qui auront alerté. J'en ai parlé depuis très longtemps et tout le monde sait que cette évolution allait arriver et elle arrive. Les véhicules électriques chinois arrivent en Europe aujourd'hui. Elles arrivent par la Finlande, par la Corse, partout, etc. On voit très bien, ce sont des véhicules d'ailleurs qu'il faut reconnaître. Il faut toujours respecter ses concurrents qui sont, à la différence des pneumatiques à l'époque, des véhicules qui sont à jour et au point sur le plan technologique. Donc la concurrence est encore plus dure parce qu'ils arrivent évidemment à des prix qui ne sont pas aussi l'équivalent de ceux que l'on produit aujourd'hui en Europe. D'où le défi. Mais croyez-moi, ça ne me fait pas peur, parce que quand on est face à un défi de cette nature et qu'on le voit arriver et qu'on peut l'anticiper correctement, eh bien, si on s'y met tous, y compris avec les pouvoirs publics locaux, l'écosystème, les fournisseurs, etc., on doit pouvoir réussir à maintenir dans notre territoire une industrie parfaitement performante. Je vous assure qu'on va y arriver. Ce n'est pas simplement une incantation parce que ça fait plaisir à dire, mais on va y arriver. En tous les cas, je vais vous dire, si nous échouions sur cette affaire-là, ça serait vraiment trop dommage et ça serait vraiment démontrer que tout ce qu'on a raconté depuis des années sur le pari de la France serait voué à l'échec. Et ça, je n'entends pas du tout que ça soit comme ça.
Dans votre stratégie aussi, Jean-Dominique Senard, c'est que vous promettez qu'à terme, 80% des pièces vont être communes. Ça signifie que 80% des véhicules seront construits sur trois plateformes. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de votre stratégie de la réussite ?
Bien entendu, parce que si vous voulez, la diversité est toujours très coûteuse. Il faut le comprendre. Et je pense que dans les années passées, y compris au sein de l'Alliance, il y a eu peut-être une tendance à ne pas converger suffisamment vite. Aujourd'hui, c'est totalement différent. C'est-à-dire que nous sommes partis sur une évolution qui est absolument inscrite maintenant, où en effet, au niveau de l'Alliance, c'est-à-dire des trois grandes entreprises, nous allons varier, 85% de nos véhicules sont sur les trois plateformes communes de l'Alliance, ce qui est assez extraordinaire. D'ici 2-3 ans, ça sera fait. Et en plus, à l'intérieur de Renault, eh bien, nous rendons commune le plus de pièces possible. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est les moteurs. Et vous avez ici, dans cette usine, un moteur qui va arriver, qui est un des plus beaux moteurs de la collection électrique, qui sera commun à Nissan et Renault. Commun sur l'ensemble des véhicules électriques. Entendez-moi bien, c'est considérable.
Vous aviez bénéficié d'un énorme prêt garanti de 5 milliards d'euros pour essayer de passer la crise. En janvier, vous disiez chez nos confrères de France Inter, je ne vais pas y toucher, je vais le rembourser.
Oui.
Alors, c'est comment rembourser?
Écoutez, il va... laissez-nous un tout petit peu de temps. Cet emprunt a été tiré non pas à 5 milliards, mais à 4. C'est une première chose. C'est un emprunt bancaire. Aujourd'hui...
Et vous n'y avez toujours pas touché?
Nous l'avons tiré, si. C'est les banques nous ont prêté cet argent, mais le contribuable français n'a pas été mis à contribution. Il le serait si nous ne devions pas être capables de rembourser cet emprunt. C'est une hypothèse que je n'imagine pas une seconde. Donc, nous rembourserons cet emprunt dans les 2-3 années qui viennent. Il y a un échéancier tout à fait prévu. Je ne suis pas inquiet du tout. Tel que je perçois les choses aujourd'hui, ça se fera dans le bon ordre et le contribuable français n'aura pas mis un sou dans le soutien de Renault. Voilà, c'est très important.
Dominique Senard qui n'est pas inquiet, hein, qui vont rembourser le prêt dans les 2-3 années qui viennent. Vous êtes le patron de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Vous restez avec nous parce que maintenant, on va vous demander votre expertise et vos conseils parce qu'il y a le pitch du jour, le pitch des trophées Europe 1, la France bouge.
Europe 1.
13h41.
Le pitch du jour, Ovum.
Oui, trouver le garagiste le plus proche de chez soi, très facilement. Eh bien oui, on va découvrir cela dans un instant. Et oui, une France bouge assez exceptionnelle aujourd'hui. On est toujours en direct de cette usine de Cléon, de cette usine de Renault. On fabrique notamment les moteurs électriques, mais encore quelques moteurs thermiques. Renault qui prépare l'avenir, 24 nouveaux modèles. On a entendu un bon coup d'attente sur la future R5 électrique de la part de Jean-Dominique Senard, qui est le patron de l'Alliance. Hein. Renault, Nissan, Mitsubishi, on l'oublie parfois, mais on est troisième, nous Français, troisième constructeur mondial grâce à cette alliance.
Oui, et maintenant on passe à notre temps fort aussi de notre émission parce qu'on va découvrir, si vous le voulez bien, le pitch du jour sous l'œil attentif, sous votre œil attentif. Jean-Dominique Senard, vous êtes notre grand témoin du jour et vous allez écouter attentivement le pitch qui va suivre, mais aussi notre fée à nous, c'est Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie.
Alors justement, on est avec Sandra Bibas. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez 46 ans, vous avez lancé Ovum en janvier. Vous venez tout juste d'achever votre campagne de financement participatif. Alors vous aviez choisi KissKiss BankBank pour faire cette campagne. Alors qu'est-ce que fait Ovum ? Eh bien Ovum facilite la vie des garagistes et des conducteurs. Ça nous fait bien plaisir. Comment on pourrait dire ? Ça vous va si je dis que c'est le carnet de santé de votre voiture ? Mais de toute façon, avec Elisabeth, on ne va pas en dire plus. C'est vous qui allez tout nous raconter.
Vous êtes prête ?
Allez, vous êtes prête ? Vous avez une minute. C'est à vous.
Parfait. C'est bon. À vous, on vous écoute. Allez-y, Sandra.
Ovum, c'est effectivement une application qui permet aux utilisateurs de pouvoir gérer leur véhicule de l'inscription, je dirais, de la création à... De la création, je dirais, à la fin de vie du véhicule par rapport à l'utilisateur. Donc, il va avoir son carnet d'entretien en ligne. Il va pouvoir être mis en relation avec les garagistes autour de chez lui, qui correspondent au final au modèle et à la problématique que rencontre l'utilisateur. Une fois qu'on a le carnet d'entretien qui est enrichi par rapport à l'ensemble des prestations qui sont directement liées, donc ça gère aussi bien le contrôle technique que l'entretien classique ou que les pannes ou les accidents, au final, l'utilisateur, une fois qu'il vend son véhicule, va pouvoir tout simplement transférer l'ensemble de son carnet d'entretien au repreneur. Donc en fait, ça suit la vie du véhicule du début jusqu'à la fin, voire même après la reprise.
Eh bien voilà, bravo c'est pour clair. Ça. Alors moi, si je ne donne pas le prix, même à distance, Nathalie Carré va me taper dessus. C'est gratuit pour les utilisateurs. Parfait. Ce sont les garages qui vous paient un forfait de base, je crois, de 50 euros pour eux. Mais c'est gratuit si Jean-Dominique Senard, Elisabeth ou moi, on a envie d'aller l'utiliser.
Et je vous y invite d'ailleurs.
Alors Sandra, vous savez
j'en aurais bien besoin parce que je ne suis pas très douée avec tout ça.
Vous savez que chaque jour, Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, analyse, épluche chaque dossier de candidature pour les pitchs. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth, bonjour Sandra, bonjour Emmanuel.
Alors Nathalie, quelles sont les forces et les faiblesses? Quelle est votre analyse sur Ovum?
Alors déjà, c'est un vrai sujet, parce qu'en fait, les Français ont un vrai problème de confiance envers les garagistes, sauf envers le leur, qu'ils ont en général choisi sur recommandation. Et c'est un vrai besoin pour les garagistes indépendants. Les réseaux de franchise sont plutôt bien équipés, mais effectivement, il y a un problème de suivi administratif et de suivi la relation client pour les indépendants. Puis le troisième point, le site est assez simple d'utilisation et bravo pour la possibilité de tester la solution sans avoir à créer de compte, on en a suffisamment. Quelques points améliorés, donc le moteur de recherche qui est la première fonctionnalité visible, expliquez comment vous sélectionnez les garages, présentez votre équipe, les compétences, ça rassure pour le client d'en savoir plus sur les personnes à qui il s'adresse. Puis toujours pour rassurer, apporter du contenu, pour donner des points de repère, coût moyen pour telle ou telle prestation, les questions à poser au garagiste, quand on doit faire quoi, bref, aidez-nous à mieux choisir notre garagiste. Puis enfin, pour simplifier, vous nous proposez pour sélectionner un garage de dire au moteur de recherche si on cherche un garage pour un sujet de démarrage, de distribution, de suspension. Bref, Emmanuel et moi, on n'est pas capable de faire ça. En revanche, on sait qu'on a les freins qui couinent. On sait qu'on a... Voilà.
Non, mais vous savez, ça, on ne sait pas. Mais vous, changez, vous savez vérifier l'état de vos pneus quand même, Nathalie.
Vous savez, vous, Elisabeth?
Mais j'ai un compagnon, moi, Elisabeth.
Moi, mon père m'a tout appris.
Ah, ouais, bah, pas
ah bravo
les pneus, je sais le faire. Enfin bon, passons, c'est pas intéressant.
En tout cas, effectivement, nous, on sait qu'on a les freins qui couinent. Quand on a le volant qui est dur, machin, mais on ne sait pas pourquoi.
Exactement.
Donc, il faudrait peut-être un accompagnement du client en partant de ce qu'il constate pour lui indiquer les pauses possibles, l'urgence éventuelle et évidemment peut-être une fourchette de prix pour ce type de travaux avant de l'orienter vers un garagiste.
Sandra Bibas, c'est vachement intéressant ce que nous dit là Nathalie Carré. Un accompagnement, on en a tous besoin.
Bah en fait, c'est déjà fait.
Ah bah alors, il faut le vendre dans le pitch.
La recherche. Au lieu d'utiliser les catégories, il suffit juste de mettre par exemple choc et ça va proposer les différentes prestations.
Frankie Queen pour Nathalie, ça existe.
Exactement, Queen aussi, ça marche, mais je vais le rajouter au pire.
Eh bah, il faut rajouter un Queen by Nathalie.
Jean-Dominique Senard, c'est un point très important pour vous, déjà de rassurer par rapport au garage, parce qu'on l'oublie, hein. Oui. Vous gagnez de l'argent quand vous vendez la voiture, mais vous en gagnez beaucoup plus quand vous l'entretenez.
Écoutez, il ne faut pas espérer que les voitures passent leur temps au garage, hein. C'est la première chose. Mais cela dit, ce que j'ai entendu est un vrai bonheur, parce que tout ce qui contribue à enlever un problème, une forme d'épine du pied du consommateur, est bon pour la suite des événements. Donc, si vous voulez, vous participez à l'économie générale de l'automobile, de la mobilité, de la facilité de la mobilité. Je ne cache pas que votre logiciel, que je dois charger maintenant, vous me l'avez bien rappelé, et va certainement avoir du succès, parce que vous êtes au cœur de ce genre de problème qui, aujourd'hui, est un peu un frein. Et honnêtement, si en plus ça peut permettre de faire des économies, personne ne s'en portera mal.
Mais là aussi, le numérique dans la relation, oui, vous avec vos clients est de plus en plus importante. Pour le moment, vos concessions sont entre guillemets fermées, c'est uniquement sur, oui, rendez-vous.
Oui, bien sûr, mais les choses vont pas tarder à changer, je pense. J'espère qu'on va revenir à une situation fluide.
Le 19 mai, ça rouvre.
Voilà, très bien. Et là, on va retrouver une vie normale. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, la pandémie a développé indiscutablement la relation digitale, j'allais dire. Mais vous savez, dans l'automobile, enfin vous le savez, il faut voir la voiture à un moment donné. Donc, il y a beaucoup de préparation en amont.
Vous ne croyez pas au fait qu'on fasse 100% de la démarche d'achat en ligne sans jamais essayer la voiture, que c'est vous qui nous la livriez à la maison et qu'à la rigueur, on vous dit si au bout de 10 jours, on n'en veut plus, on vous la rend?
Ça va arriver, forcément. Parce que quand on n'imagine pas forcément l'avenir comme cela, on se trompe toujours. Donc, ça arrivera et ça arrivera plus vite que prévu. Mais si vous voulez, la progression pour le marché global sera probablement un petit peu plus lente que ce que l'on peut imaginer. Les consommateurs, et je ne leur en veux pas, c'est bien normal, et je suis moi aussi le premier à vouloir le faire, c'est d'aller voir le véhicule, le toucher avant de l'acheter.
Et là, les prises de rendez-vous, c'est pas trop le cas, on n'a pas trop ce réflexe encore d'y aller?
Si, mais si vous voulez, c'est vrai que dans une atmosphère de pandémie comme on l'a vécu, vous n'êtes pas nécessairement encouragé à vous promener partout et aller dans les concessions. Heureusement, les mesures gouvernementales, dès le départ, ont prévu qu'il y ait une possibilité quand même pour les clients d'y aller. Bon, c'était plus limité, mais on ne peut pas s'en plaindre. Voilà, il faut que ça cesse, ça ne va pas tarder à cesser et c'est formidable.
Sandra Bibas, avec Ovum, vous voyez où dans 5 ans?
Ben, l'international.
International. Allez, le
carnet. Et pour cela, il faut lever des fonds, je crois, c'est ça. En plus de la campagne de...
Obligatoirement, il faudra lever.
Vous voulez combien de sous?
À partir du moment où on voudra aller à l'international, mais quoi qu'il en soit, pour le moment, on a de quoi couvrir notre développement national, on va dire.
Ça s'appelle Ovum. Merci à vous, Sandra Bibas, d'être venue nous présenter votre projet dans La France Bouge.
Et si vous aussi, vous avez comme ça envie de venir présenter votre entreprise, eh bien, c'est très simple. Une seule adresse mail, e1-lafrancebouge@europe1.fr. Et comme ça, vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidates et de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 La France Bouge.
Jean-Dominique Senard, vous êtes le patron de l'alliance Renault Nissan Mitsubishi. Vous restez encore avec nous quelques minutes pour la suite et la fin de votre émission.
Europe 1.
Et il est 13h52.
À suivre demain, un emploi. On accompagne les jeunes qui arrivent sur le marché du travail en cette période compliquée.
Elisabeth, je vous assure que je n'ai pas ajouté un zéro. 1000 postes aujourd'hui.
1000 postes.
À tout de suite.
Mais où ça?
Ah bah, vous attendez comme tout le monde. À tout de suite. Bien sûr qu'elle bouge cette France et on le voit encore aujourd'hui avec Jean-Dominique Senard, notre grand témoin, patron de l'alliance Renault Nissan Mitsubishi, qui est notre invité, qui nous accueille chez lui aujourd'hui, ici depuis cette usine Cléon. 5000 salariés, usine en pointe sur le moteur électrique.
Et demain, un emploi, ça nous tient à cœur, oui, à La France Bouge, d'accompagner, de soutenir les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Alors aujourd'hui, nous avons 1000 offres d'emploi à vous proposer, ça, c'est très très sérieux. Bonjour, vous êtes Muriel André?
Oui, bonjour Elisabeth, bonjour Emmanuel.
Vous
bonjour.
Êtes directrice des ressources humaines du groupe PHE. PHE, c'est le leader de la distribution automobile. On les connaît à travers Oscaro.com, Mondial Pare-brise ou encore Autodistribution. Et si vous êtes en direct là, dans La France Bouge, c'est parce que cette année, vous prévoyez d'embaucher 1000 nouveaux collaborateurs, principalement en France.
Absolument, 1000
collaborateurs. Quel type de poste?
Nous sommes dans la distribution, donc on recrute d'abord dans les métiers du commerce. Donc des vendeurs en magasin, en centre d'appel, des responsables de secteur commercial. Mais distributeur, ça signifie aussi que nous sommes des logisticiens. Donc on cherche des postes de gens qui travaillent dans des plateformes, donc des préparateurs de commandes, des caristes, des chauffeurs-livreurs. On est sur le marché de la réparation, on a pu citer comme enseigne que nos éditeurs connaissent peut-être Mondial Pare-brise. Donc on cherche des poseurs de vitrage, mais aussi
demain,
des chefs d'atelier en mécanique.
À l'intelligence artificielle et autres.
Absolument.
Et on a retrouvé en partie.
Nous avons aussi.
Alors,
les...
pardonnez-moi, on a un petit problème de liaison téléphonique, Muriel André. On va essayer de recaler tout ça. Je rappelle que vous êtes la DRH du groupe PHE. Vous êtes le leader de la distribution automobile. Vous avez notamment Oscaro.com, Mondial Pare-brise et tout ça. Et donc, vous avez 1000 emplois.
Oui. Bon, alors là, elle est vraiment partie, j'ai l'impression, madame André.
Alors, on va repasser avec vous, Jean-Dominique Senard. Oui. Pardonnez-nous, chers auditeurs, pour ces petits problèmes techniques, mais on va vous raconter notre vie. On est en plein direct de cette usine de Cléon. On a un réalisateur exceptionnel du côté de Paris. On a une réalisation également ici. Et on a, semble-t-il, un petit peu de mal à se parler tous ensemble. Donc, on va se parler directement en tête-à-tête avec vous, Jean-Dominique Senard. Et donc, vous recrutez, vous, sur les nouveaux métiers. C'est là où vous avez beaucoup de besoins.
Je préfère le mot transformation des emplois. C'est évidemment ça qui va se passer. Et vous le voyez, ça va être assez massif sur les années qui viennent. Vous avez encore une fois un parfait exemple ici de la transformation des emplois qui va se faire. Je voulais vous dire que ça fait partie de notre absolue nécessité d'améliorer la formation des personnes pour que l'emploi demeure en France. Je le dis de la façon la plus claire, nous sommes très fiers de produire ces véhicules en France, très fiers de produire ces moteurs ici. Imaginez-vous ce qu'on aurait pu penser il y a quelques années. Donc ça va se construire, il va y avoir de nouveaux talents, de nouvelles formations, c'est typiquement l'anticipation dont je parlais tout à l'heure. Beaucoup d'investissements et tant mieux parce que ça va assurer notre indépendance industrielle dans les années qui viennent. Et on est là pour ça et Renault est un bout de France. Je le dis très honnêtement, Renault doit faire son travail et son devoir.
Ça signifie qu'il y a des écoles de formation Renault?
Absolument, tout à fait.
Vous êtes arrivé chez Renault depuis Michelin pour sauver cette entreprise après l'affaire Carlos Ghosn. Votre mandat dure encore 18 mois. Dans 18 mois, c'est fini pour vous. Jamais vous n'aviez pensé que ça allait être si dur. Quand vous avez dit oui, vous n'imaginiez pas ce qui vous attendait.
Je dois reconnaître que j'ai eu quelques surprises, voilà, mais ça fait partie de la vie. On est là pour résoudre les questions quand ces questions se posent. Pour tout vous dire, je suis très fier d'avoir eu cette mission. Et puis simplement, très simplement, comme toujours, franchement, je ne suis pas seul. Je suis entouré aujourd'hui d'une équipe absolument extraordinaire, que ce soit d'ailleurs chez Nissan ou chez Renault, comme sur Mitsubishi. Je vous le dis sincèrement parce que c'est vrai. Et que cette équipe nous porte. Franchement, tout seul, vous ne faites rien. En revanche, vous pouvez être un peu chef d'orchestre, ça, c'est sûr. En tout cas, la grande fierté, c'est d'avoir d'abord eu la confiance pour mener cette mission et me dire quelque part qu'elle est en grande partie, peut-être un peu derrière moi. Tant mieux si c'est pour le...
Mais vous finissez le mandat, vous restez
vivant encore.
Tout seul, vous ne faites rien, mais on est un petit peu chef d'orchestre. Merci à vous. C'est une parole de patron, ça. Merci à vous, Jean-Dominique Senard. Le patron de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, merci de nous avoir accueillis en direct dans cette usine Renault à Cléon, en Seine-Maritime.
Merci à, merci à toutes nos équipes techniques, à tous ceux qui nous aident au quotidien à préparer cette émission. Merci à vous d'avoir suivi également cette émission. Et on se retrouve demain, on sera avec le patron de l'ESSEC.
À demain, dans un instant, le flash suivi de Christophe Ondelat.